Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama avec une émission consacrée à des films en salle depuis le 2 juin, preuve que, eh bien, que tout est bien reparti dans les salles, il y a beaucoup de choix. On a choisi chacun un film. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour. Alors, pour toi Manu, c'est quoi?
C'est une rareté, on va dire, un film exhumé qui a 47-48 ans. C'est Amusement Park de George Romero, le papa des morts-vivants, de La Nuit des morts-vivants.
Et toi, Guillaume, c'est un film plus actuel?
Oui, c'est Billie Holiday, le film de Lee Daniels sur la chanteuse du même nom.
Quant à moi, je vous parlerai du dernier film de Lucas Bellevaux, Des Hommes, un film qui va nous emmener en Algérie, et plus précisément dans l'épreuve de la guerre d'Algérie. Et ce sera l'occasion de jouer un blind test avec des films qui traitent de la guerre d'Algérie d'une manière ou d'une autre. Soit on est présent sur le sol, soit on est présent en France, peu importe du moment qu'il en est question. Et on va commencer en revanche par un film qui nous emmène aux États-Unis avec une chanteuse qu'on cherche à museler. C'est le gouvernement américain qui cherche à museler Billie Holiday.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
On devrait intégrer d'autres personnes dans le public. Ça changerait la donne d'avoir des noirs et des blancs assis ensemble.
Laquelle de mes chansons préférez-vous?
Strange Fruit.
Ouais, elle parle de choses importantes, cette chanson. De choses qui se passent dans le pays.
Bien qu'elle soit une icône de la communauté afro-américaine et considérée comme étant une figure majeure de l'engagement en faveur des droits civiques et contre l'inégalité et le racisme, la chanteuse Billie Holiday n'aura pas fait beaucoup de vagues sur grand écran. Contrairement à Martin Luther King, très souvent cité dans de multiples films, voire même à Malcolm X, très controversé mais efficacement mis en scène par Spike Lee, le premier long métrage plaçant l'artiste comme protagoniste principal, Lady Sings the Blues de Sidney G. Fury, a largement été oublié par le grand public malgré la présence de Diana Ross dans le rôle titre est de Billie Dee Lando Calrissian Williams dans celui de Louis McKay. Il faut dire que le film de 1972 est handicapé par une vision quelque peu biaisée de la vie et de son sujet et avait cherché à arrondir les angles pour rapporter un récit plus flatteur de certaines personnes. Rappelons par exemple que Louis McKay, le mari très violent de Billie Holiday et qui n'a vu cesse de la battre et de la trahir dans une histoire d'amour compliquée et embrumée, avait été impliqué en tant que conseiller technique sur le tournage. Donc en 2021, à l'heure où les revendications sociales pour la reconnaissance de la communauté noire, mais aussi des luttes pour une nouvelle perception de la femme, constituent une nouvelle fois une actualité brûlante, l'idée de ressusciter une seconde fois l'icône n'était pas mauvaise. Mais qu'en est-il du traitement?
Cette Holiday met de mauvaises idées dans le crâne des gens.
Elle encourage la colère et les revendications du peuple noir.
Ses paroles sont provocatrices.
Vous avez un plan?
C'est une toxicomane.
Exactement.
Didactique jusqu'au bout de sa formule, le film va s'attacher à expliquer au spectateur, un peu plus de deux heures durant, ce qu'il va énoncer dès la scène d'introduction. Une voix off décrypte les enjeux derrière la glaçante image figée de personnes souriantes posées à côté de corps suppliciés après un lynchage et nous explique que Billie Holiday, vedette du jazz new-yorkais, va connaître des soucis en ajoutant la chanson Strange Fruit à son répertoire qui est justement un réquisitoire poétique et sans phare sur les lynchages. Billie Holiday est bien évidemment un film engagé et cela se voit dès le titre qui induit une grosse différence de perception entre la France et les États-Unis. Alors que chez nous, il est simplement intitulé Billie Holiday, du nom du personnage qu'il met en scène, et que Une affaire d'État n'est que l'accompagnement, aux États-Unis, son titre en version originale est The United States versus Billie Holiday, donc les États-Unis contre Billie Holiday, qui montre l'angle du parti pris voulu par la production. On cible un axe, l'Amérique blanche contre Billie Holiday. Les intentions sont ainsi bien plus claires à décrypter que le premier film sur la star. On voit qu'on est, par exemple, aux antipodes de la démarche d'un Steven Spielberg lorsqu'il signe Lincoln, un film au titre générique sur l'illustre président, alors que le film ne va parler que de la période où Lincoln va faire abolir l'esclavage. On sous-entend bien que derrière ce Lincoln puissant, c'est toute l'aura de cet homme historique qui vibre, ses actions passées aidant à appuyer ce moment de l'histoire mise en scène. Lee Daniels adopte la démarche opposée qui veut tout surligner, mais n'arrive au fond qu'à exposer le peu d'intérêt de l'angle choisi par la production. Ce moyen de se rassurer est bien pratique pour fabriquer automatiquement des martyrs et des héros, mais n'invite guère à la nuance qu'un tel sujet requiert. Car ce que l'on retient du film, c'est surtout que si l'artiste est passionnante et enchanteresse, la femme derrière, elle, est beaucoup moins intéressante et peine à nous transporter. N'oublions pas que Lee Daniels est coutumier d'un académisme lénifiant, étant déjà derrière les embarrassants, soporifiques et déjà complètement oubliés, Precious et le majordome, et qui se révèle être ici parfait pour servir la soupe millimétrée à l'avance de ce genre de programme. Ce n'est donc pas mauvais, c'est certainement conçu avec attention et souci de bien faire, mais c'est un peu désespérant de voir le peu d'envergure offert avec un tel sujet. À part un long plan séquence au moment fort du film, calqué sur celui de La Môme, lorsqu'Edith Piaf apprend la mort de Marcel Cerdan et termine sa déambulation sur scène, la mise en scène est terriblement plate et filme tout à la hauteur d'homme, ce qui, pour une icône, même dotée de fêlures, est un peu gênant. Il a quand même failli y avoir une idée de plan, où on associe pendant 2 courtes secondes Billie Holiday à une vitre brisée dans le même cadre.
Je suis un peu nerveuse devant vous ce soir. Les journalistes n'arrêtent pas de me demander « Billie, pourquoi vous faites toutes ces choses ?» Vous devriez faire plus comme cette personne ou cette personne. Voilà ce que je leur réponds.
En 2020, la suite de Borat se terminait sur « voter », le mot plus que symbolique de son vrai message, au-delà du divertissement vendu. On étouffait l'impertinence anarchique, caustique et donc salvatrice de ce récit d'immigrés qui venait mettre le feu à une Amérique bouffée par son puritanisme. Il est dommage que ça soit un peu la même chose ici, d'atténuer la force d'une figure comme celle de Billie Holiday et de ses actes en servant un gâteau synthétique, au demeurant bien fait, mais en lieu et place du grand verre d'alcool qui met le feu aux tripes. On se demande pourquoi ces sujets sont confiés à des gens comme Lee Daniels ou encore Ava DuVernay et pas aux frères Hughes qui auront, eux, réalisé 2 des plus importants films sur la communauté afro-américaine des années 90, Menace to Society et Génération Sacrifiée, et qui sont malheureusement plus que discrets. Il est sûr que le biopic aurait eu une valeur plus transgressive et donc plus en osmose avec son sujet. Alors moi je note, à titre personnel, mais c'est bien maigre, qu'on voit Natasha Lyonne au générique, à nouveau dans un film musical, 22 ans après, Detroit Rock City, mais là c'est avec Kiss. Bon bah c'est peu, mais bon, c'est du Lee Daniels.
Billie Holiday, une affaire d'État est donc en salle depuis le 2 juin. Manu, une question.
Non, c'est juste, bon, je ne l'ai pas vu, mais est-ce que le film parle de musique? Parce que quand même, Billie Holiday, bon, je veux bien pour l'engagement, tout ça, mais c'est avant tout la plus grande chanteuse de jazz, peut-être... du XXe siècle. Donc, est-ce que l'aspect musical est traité ou pas, quoi? Finalement, c'est ce qui m'intéresse plus.
C'est bien ça le problème, c'est qu'on a une chanson qui est au cœur du débat, qui donne naissance à son titre, l'affaire qui a donné naissance à toute la polémique. Et en fait, c'est très peu traité, que ce soit au niveau de justement la composition, de l'idée d'engagement, du combat qu'elle mène. Au final, c'est toujours amené vers le bas pour des raisons plus triviales, on va dire familiales ou de drogue. Mais c'est jamais, on n'a jamais le cœur d'une combattante en fait engagée, qui est vraiment montrée plus que le... Forcément, ma communauté a un problème et il faut que je le dénonce dans une Amérique qui nous muselle vers le bas, quoi. Et c'est vraiment dommage, quoi. C'est pour ça que, même si c'est plus osé que le film de 72, on est clairement dans quelque chose de très policé et c'est gênant.
Gérard Depardieu, Catherine Fraud, Jean-Pierre Daroussin, un film sur la mémoire et la transmission ou l'absence de celle-ci. C'est Des Hommes de Lucas Bellevaux.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Les films sur la guerre d'Algérie ne sont pas si nombreux. L'industrie française du cinéma n'est pas aussi productive qu'Hollywood quand il s'agit d'exposer ou de comprendre des pans entiers de l'histoire du pays. Alors on ne compte plus les films sur la guerre du Vietnam ou sur la présence américaine en Irak ou en Afghanistan. Et une des clés peut être trouvée à la vue du dernier film de Lucas Bellevaux, Des Hommes. Celui-ci est tiré du roman homonyme de Laurent Mauvignier, paru en 2009, une période d'ailleurs qui a vu arriver sur les écrans de nombreux films sur la guerre d'Algérie. Alors il donne une clé car il nous parle des blessures secrètes et des marques indélébiles que la guerre laisse dans les consciences, de l'impossibilité d'en parler. Alors c'est la guerre, mais aussi cette guerre précisément celle que la France a menée à partir de 1954 en envoyant sa jeunesse dans une contrée qu'elle avait colonisée des années plus plus tôt. Alors on essaie bien une fois de retour au pays d'en parler, mais devant l'incrédulité des oreilles pas toujours attentives, on finit par enfouir ce passé trouble. Certains n'en dorment plus, d'autres parviennent à mener leur vie tranquillement, et puis d'autres encore gardent une certaine rancœur, ne supportent plus ce qui est lié de près ou de loin à l'Algérie. C'est le Maghreb, c'est les Maghrébins, c'est les immigrés qui leur sortent des yeux, mais peut-être autre chose. Alors c'est ainsi que bascule le film Des Hommes de Lucas Bellevaux. Au début, on voit un Depardieu interprétant Bernard, aussi appelé Feu de Bois, quitter sa vieille ferme pour rejoindre à Mobilette une fête à laquelle il ne semble pas convié. C'est là qu'il va lâcher les mots crouille bougnoule, et c'est là qu'interviendra la première voix off d'un récit qui va nous emmener en Algérie en pleine guerre. Cette voix, c'est celle de Rabu, Jean-Pierre Daroussin, le cousin, celui qui a fait la guerre comme les autres. Campagnard, envoyé dans un pays dont il ne connaissait rien et dont on lui disait que c'était la France. C'est ainsi que le temps du film va se fragmenter entre la campagne du Morvan et les collines de l'Algérie 40 ans plus tôt. Alors on y voit là-bas Feu de Bois, Rabu, Février et d'autres camarades. Là-bas, ils vont assurément trouver un ailleurs, une autre vie, mais ce qu'ils vont ramener, eh bien, on ne le saura pas toujours. Entre les idéalistes, ceux qui se taisent, ceux qui n'ont aucun état d'âme, peu d'entre eux, eh bien, ne pourront assumer leur récit. La guerre d'Algérie est un sujet qui deviendra presque tabou, et même pas parce que les soldats se taisent, mais parce qu'on ne peut pas les écouter. L'essentiel est ailleurs. Dans les années 60, c'est avancé.
Je pense à l'Algérie, je pense à nos 20 ans.
On ne s'aimait pas beaucoup et pourtant on restait ensemble dès qu'on se croisait. Depuis toujours, c'était comme ça.
Ils sont tous là, à part les morts.
Bernard, arrête.
Oui, bien sûr, qui peut être là, le crouille.
Tais-toi.
Fous le camp.
C'est au travers des images, mais aussi des voix off, que le film dresse le portrait de ces hommes il y a 40 ans et ce qu'ils sont devenus. Bellevaux confronte les destins individuels avec la grande histoire. On oscille entre la campagne profonde et sombre et un territoire baigné de soleil, mais également le conflit familial et le grand conflit armé. Le constat est aussi politique. Aux scènes mêlant harkis et soldats français répond le racisme ordinaire de notre époque. Et formellement, eh bien, le récit amené par Bellevaux est une réussite, avec des voix off entremêlées. C'est-à-dire que le récit débuté par un personnage peut être poursuivi par un autre qui a pris part à ce qui est décrit, ou au contraire, eh bien, nous amener à un autre éclairage et être repris par un autre personnage. Enfin voilà, il y a trois personnages en fait en voix off. Alors c'est d'autant plus important d'utiliser ces voix off, un procédé de feignant, c'est ce qu'admet Lucas Bellevaux dans une interview que j'ai pu lire, et que Des Hommes est avant tout un roman de Laurent Mauvigné, dont le talent d'écrivain est redoutable. Donc autant dire que les voix là sont extrêmement bien posées et les mots bien calés.
Je ne t'ai pas raconté les opérations dans le Djebel, la chasse au fel, les rafles dans les douars, les mechtas. On ne trouvait jamais rien, mais ça calmait les nerfs. Je t'ai pas raconté des zones interdites, des gens expulsés, déplacés, déportés par millions, dans des camps, les villages silencieux comme des cimetières. Plus rien de vivant sur des centaines de kilomètres carrés, plus rien. Pas un humain, pas une bête. Rien qui aurait pu aider un fellaga à manger. Rien. Et le napalm, dès qu'on repérait une trace de vie, on pacifiait.
Film sur la mémoire et la transmission, Des Hommes peut aussi sembler parfois un peu terne. Pourtant, les allers-retours entre le Morvan et l'Algérie, les deux temporalités qui s'entremêlent sans que l'ensemble soit linéaire, nous permet de mieux appréhender le sujet. Les images d'archives qui surgissent nous replongent dans ce que fut cette époque, donnant, s'il en fallait encore, eh bien, plus de poids au silence de ces soldats et les dégâts que cela a pu causer de ne pas parler de ce qu'ils avaient vécu. Et moi, c'était d'ailleurs la première fois que je voyais des images d'archives sur le moment de la décolonisation. Enfin, je crois que je n'en avais pas vu ni à l'école ni même ailleurs. Voilà. Donc c'était dans ce film, et là c'est un moment très important et très fort où ces images sont mêlées aux voix off. À noter la présence de Johann Zimmer qui interprète un Depardieu jeune, absolument fringant, qu'on avait rapidement vu dans Été 85. À noter aussi que ce film était en compétition officielle de Cannes 2020. Enfin, il était estampillé Cannes 2020, mais évidemment il n'y a pas participé. Donc, Des Hommes, dernier film de Lucas Bellevaux avec Gérard Depardieu, Catherine Froux, Jean-Pierre Daroussin, est en salle depuis le 2 juin. Et ce film nous donne l'occasion de jouer un blind test avec les films qui traitent de près ou de loin de la guerre d'Algérie.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il, d'une blague ?
Interview, chronique, blind test
Et tout le reste.
Merci.
Les blind tests, comme toujours, ce sont 5 extraits que vous allez écouter. Et il faut évidemment trouver les titres. À noter, eh bien, que pour ce qui concerne la guerre d'Algérie, il n'y a pas forcément grand-chose, mais il y a quand même une période où il y en a eu un certain nombre. C'est ce que va montrer un peu ce blind test. On commence avec un premier extrait.
Le FLN a peut-être des méthodes dégueulasses, mais les vôtres ne valent pas mieux, mon capitaine.
Ici, c'est comme un indo-terrien, c'est pas une guerre traditionnelle. Faut que vous compreniez qu'on mène une guerre psychologique. Le FLN n'est qu'une minorité. Il déstabilise tout le pays, il faut l'éliminer.
On peut se parler librement.
Allez-y.
Vous trouvez ça normal, vous ? On ait donné l'indépendance à la Tunisie et au Maroc ? Et pas à l'Algérie ?
Vous pouvez pas comparer. L'Algérie, c'est la France.
Si l'Algérie, c'est la France, on va peut-être commencer par donner les mêmes droits à tout le monde.
Trouvé, Manu.
Et c'est Ennemi intime de Florian Emilio Siri.
Oui, c'est ça. Mais c'est précisément L'ennemi intime.
L'ennemi.
C'est sorti en 2007. Donc là, il est question des crimes. Hein. En Algérie, dans les montagnes de Kabylie, en 59, le lieutenant terrien Benoît Magimel, un idéaliste, remplace un autre lieutenant abattu lors d'une escarmouche. Et oui, une escarmouche. Et il prend le commandement d'une section de l'armée française. Il y rencontre le sergent Douniac, interprété par Albert Dupontel, un militaire plutôt désabusé. Hein. Leurs différences et la dure réalité du terrain vont vite mettre à l'épreuve les deux hommes. Ils vont découvrir qu'ils n'ont comme pire ennemi qu'eux-mêmes. Le film traite alors de l'emprise du doute chez les militaires français, dont certains ne peuvent s'empêcher de penser qu'ils se comportent comme l'occupant allemand, qu'ils ont précédemment combattu. Aucune pratique brutale et cruelle n'est occultée, que ce soit en fait des deux côtés. À noter qu'il a réuni 461 000 spectateurs en France. Deuxième extrait de ce blind test consacré donc au film qui traite de la guerre d'Algérie.
Francis, je suis militaire et en guerre. Vous confondez justice et légalité. Vous saisissez la différence ? Pendant l'occupation, la légalité, c'était le gendarme qui escortait les convois vers les camps de concentration. La justice, c'était ceux qui faisaient sauter les trains. Ici, la légalité, c'est le procureur qui cherche les preuves contre le fel qui a égorgé mes gars. Moi, j'ai ces preuves et je veux pouvoir faire justice. Vous comprenez ?
Je crois, mon colonel.
Alors, dites-moi ce que les pouvoirs spéciaux nous autorisent.
Pratiquement tout. S'il s'agit de rétablir l'ordre, aucune mesure n'est a priori exclue, même si elle semble contraire aux grands principes du droit.
Bien, vous avez clarifié la situation. Cela signifie, messieurs, que sans oser le dire, les politiques nous laissent faire. Eh bien, nous allons faire. Tout se passera dans les règles.
Dialogue, alors moi, que je trouve remarquable. Donc, c'est un film de 2006. Le précédent était 2007, hein, donc une année avant. Là, bon, bah, ça traite de la justice et de la légalité. C'est un film avec Olivier Gourmet, qu'on a reconnu, mais aussi Robinson Stévenin et Cécile de France. Alors, vous êtes excusé, hein, parce qu'il a fait 35 000 entrées en France.
Donc, je ne pense pas l'avoir vu.
Ben voilà, tu ne faisais pas partie des 35 000. Alors nous sommes en 95 à Paris et le colonel en retraite, Raoul Duplan, est trouvé chez lui une balle dans la tête et une lettre anonyme est envoyée aux enquêteurs. Le colonel est mort à Saint-Arnaud et Saint-Arnaud nous renvoie en Algérie en 57. Alors, c'est Mon colonel, film réalisé par Laurent Herbier, donc sorti en 2006. Film vraiment très intéressant, bon, qui a réuni vraiment très peu de spectateurs en France. Celui-ci en a réuni bien 10 fois plus. On écoute.
Quand au marquis blessé, ils ont tué un fel, capturé un autre et récupéré 2 fusils de guerre.
C'est grave.
C'est grave.
Faut l'évacuer d'urgence.
Faut l'évacuer d'urgence.
La carte. Tu vas leur demander une Evasan hélico. Dans le 47-48.
Cela, il s'en occupe.
PCPC, à Horde Noire.
Pour le prisonnier, tu leur demandes qui nous l'amène. On va le faire parler. Il doit savoir où se trouvent nos 3 disparus. Qu'ils nous le descendent.
Bon, pour le prisonnier, descendez-le.
Qu'est-ce qui se passe ?
Attendez.
Qu'est-ce qui se passe ?
Ils ont descendu le prisonnier.
Quoi ?
Ils ont descendu le prisonnier.
Alors, si vous avez été attentif, c'est l'histoire d'une méprise. Descendez-le, et bam, 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 donc ils descendent le prisonnier, parce qu'ils sont simplement en contact radio. Voilà. Enfin, pour ceux qui n'ont pas été attentifs, c'est une grosse, grosse méprise. Alors, ça n'a pas été trouvé, en revanche. Peut-être que vous l'avez vu, film de 1982, avec Nicole Garcia et Jacques Perrin, qu'on entend. C'est lui, le capitaine.
Le crap tambour. C'est pas le crap tambour. Hein.
L'honneur d'un capitaine.
Oui,
Tout à fait.
Ah oui.
Lors d'un débat télévisé sur la guerre d'Algérie au début des années 80, le professeur Paulet dénonce les méthodes du capitaine Caron, interprété par Jacques Perrin, tué au combat en 57, et la veuve du capitaine, Patricia Nicole Garcia, décide d'intenter un procès en diffamation à Paulet, film de Pierre Schondorfer. 418 000 entrées en France. Ce film en a eu beaucoup moins. On écoute cet extrait, il faut trouver le titre.
Je vous ai fait venir pour vous expliquer ce qui s'est passé hier. Comme vous avez vu, il y a eu un accrochage. Et pendant l'accrochage, le sergent Lassène, qui était avec les Félagas, s'est rallié au para.
Ce n'est pas vrai. Tu mens.
Non, je mens pas, c'est la vérité.
Alors il faut le tuer, c'est un traître.
Du calme. Taïb, qu'est-ce que t'en penses ?
Donne-moi ton arme et je vais le tuer tout de suite.
Pourquoi tu veux le tuer ? Il est avec nous maintenant.
Il n'est pas avec nous. Il n'est ni avec les Félagas, ni avec les Français. Il a trahi les uns et les autres.
C'est peut-être pas aussi simple.
Si, c'est très simple.
Alors, j'ai pas choisi cet extrait au hasard parce qu'il y a un petit indice. Encore faut-il avoir vu ce film qui a réuni 90 000 spectateurs en France par un réalisateur qui fait d'excellents films et qui n'est pas toujours suivi.
C'est
hein,
pas
sale.
Philippe Faucon. Non, oui, c'est Philippe Faucon. Hein.
Tout à fait.
Et c'est ça, oui. J'ai plus le titre et c'est... Voilà,
c'est la trahison.
La trahison, ouais. Voilà.
Alors, film sorti en 2005, et si vous vous rappelez, Mon colonel est sorti en 2006, et puis L'ennemi intime en 2007. Ça veut dire que tous les ans, à cette période, on avait quand même un film sur la guerre d'Algérie. Alors là, ce film retrace quelques jours de la vie du sous-lieutenant Rock pendant la guerre d'Algérie. Il a sous ses ordres 400 soldats français, dont 4 jeunes musulmans, qui se sont engagés, qui sont très utiles au reste du poste, puisque ils font les traductions de l'arabe au français. Et le film porte évidemment un regard sur les harkis. Donc, je l'ai déjà dit, 90 000 entrées en France. On termine par un film, j'ai presque envie de dire historique.
Je trouve drôle que vous vouliez devenir actrice. Elle alluma une cigarette et demanda pourquoi.
Pourquoi ?
Les acteurs, je trouve ça con. Je les méprise. C'est vrai, vous leur dites de rire. Ils rient. Vous leur dites de pleurer, ils pleurent. Vous leur dites de marcher à quatre pattes, ils le font. Moi, je trouve ça grotesque.
Je ne vois pas pourquoi.
Je ne sais pas. Ce ne sont pas des gens libres.
Regardez.
Quoi ?
Un acteur.
Ah oui, c'est un clé.
Alors, ça a été trouvé.
Oui, c'est Le Petit Soldat de Jean-Luc Godard.
Oui, un des dialogues célèbres, film de Jean-Luc Godard, donc tourné en 1960, mais il sort seulement en 63 en raison d'une interdiction par la censure. Il nous plonge en 58 pendant la guerre d'Algérie, aux côtés de Bruno Forestier, déserteur, réfugié en Suisse, qui travaille pour un groupuscule d'extrême droite. Il croise un jour Véronica, Anna Karina, et en tombe amoureux, et ses amis le soupçonnent de mener un double jeu, et pour le tester, il lui ordonne d'assassiner un journaliste. C'est le deuxième long métrage de Godard après Bout de souffle. Et c'est le premier film avec Anna Karina. Alors, la situation en Algérie, la présentation d'un déserteur et la dénonciation de l'utilisation de la torture par les deux bords conduisent à l'interdiction du film pendant 3 ans par le ministre de l'Information de l'époque qui ne voulait pas saper le moral de la jeunesse française. À noter que de nombreuses scènes n'ont aucun bruit de fond, seuls les dialogues doublés sont entendus, et ça crée donc un décalage entre l'image et le son. Et c'est aussi dans ce film que tu apprécies tout particulièrement, Guillaume, qu'on entend cette phrase « La photographie, c'est la vérité, et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde ».
C'est ça, et ce qui est beau dans ce film, c'est qu'au-delà de son sujet, je ne cache pas que mon véritable intérêt, c'est Anna Karina, et dans le sens où... où on sait que Godard est littéralement tombé amoureux de Karina à travers ce film, et ça se voit, la caméra, là, pour le coup, en plus de la grande histoire qu'il raconte, il y a une petite histoire qui est en train de se créer, et c'est particulièrement émouvant. Et je ne sais pas si c'était voulu à la base, mais connaissant Godard, il y a des chances, hein, sous ses patchwork d'images, mais il y a un résultat qui est extrêmement fort, je trouve.
Eh bien, il faut se replonger donc dans Le Petit Soldat. Voilà, j'aurais pu mettre dans ce blind test qu'un son impur auquel vous avez pensé en écoutant ces extraits.
Il y avait aussi Avoir 20 ans dans les oreilles, et puis le film d'Yves Boisset, R.A.S. aussi.
Et il y avait aussi Hors la loi, un des derniers films de Rachid Bouchareb. Ainsi s'achève donc ce blind test consacré au film traitant de la guerre d'Algérie. Alors qu'il pense passer une journée paisible et ordinaire, un vieil homme se rend dans un parc d'attractions pour y découvrir un véritable cauchemar. De quoi s'agit-il ? De Amusement Park de George Romero.
Et maintenant ?
Quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
Oui, oh, ça va.
Alors cette œuvre, donc Amusement Park, double entrée, provoque une sidération caractérisée par sa singulière introduction et son point de départ affolant, digne d'un épisode terrifiant de la quatrième dimension. Alors choc de deux mondes antinomiques, de deux conceptions, non pas réellement du cinéma, mais du média audiovisuel, avec d'un côté le film institutionnel et de l'autre les caractéristiques de la série B Underground. Cette dichotomie qui se dilue, s'homogénéise, est une proposition inédite, rarement rencontrée dans un film qui ne dit pas ouvertement son nom. Car à l'origine, Amusement Park ne figure nulle part dans la filmographie de George Romero, aucun ouvrage n'en faisant mention. Même les plus fervents admirateurs du cinéaste n'en connaissaient pas l'existence. Mais sa veuve, Suzanne Desrocher Romero, qui s'occupe de la fondation donc George Romero, a retrouvé les bobines en 2018, un an après la mort de son époux. Il s'agit initialement d'une commande religieuse de l'église luthérienne de Pittsburgh, afin de sensibiliser le public sur la maltraitance envers les personnes âgées aux États-Unis, un sujet délicat, toujours d'actualité d'ailleurs. Alors évidemment, comme toute commande définie par un cahier des charges strict, il fallait notamment boucler le film par une note d'espoir, un message religieux positif. Peine perdue, Romero ne se plie pas aux exigences et horrifié, les autorités luthériennes enferment le film dans un placard. Alors pourquoi demander à un spécialiste du cinéma horrifique de réaliser comme ça un pur produit institutionnel ? Et pourquoi Romero a-t-il accepté, sortant tout de même d'un succès énorme avec La Nuit des Morts Vivants, œuvre séminale qui aurait dû lui ouvrir toutes les portes. Alors déjà, il faut dire qu'il était assez fréquent que des religieux demandent à des auteurs tournés vers l'épouvante, ce qui peut paraître bizarre, de réaliser des films de propagande alertant la population, et surtout d'ailleurs la jeunesse, sur des problèmes graves de société comme la drogue, le sexe, les mini-jupes même, parce qu'il y a eu des films qui alertaient sur les dangers de la mini-jupe. Alors Romero, homme de gauche, a sans doute accepté par défi, mais aussi parce que son film de zombies, tant célébré pour des problèmes de droit, ne lui a absolument rien rapporté. Il s'est contenté d'enchaîner des films fauchés comme There Is Always Vanilla et Season of the Witch, d'ailleurs deux merveilles, qui forment un corpus cohérent avec Amusement Park, tourné juste après, autour de 73. Alors, sauf que ce dernier, par sa concision, liée à sa durée de moins d'une heure, 54 minutes exactement, et son sujet à la fois peu excitant et pourtant singulier, s'avère encore meilleur. Alors, il s'ouvre par une introduction didactique dans laquelle un homme planté dans un décor un peu périurbain, désertique, s'adresse face caméra. Il évoque évidemment la situation des personnes âgées dans la pure tradition moralisatrice, incitant chacun à prendre soin de ses proches. Alors, amen, pourrait-on dire. Sauf que ce début un peu surréaliste ne reflète en rien la claque que l'on va prendre. D'ailleurs, cette présentation en trompe-l'œil ou oreille n'est pas sans rappeler celle que faisait Rod Sterling avant chaque épisode de la quatrième dimension. Et ensuite, on découvre un vieil homme joué par l'étonnant Lincoln Maze, que l'on reverra d'ailleurs dans Martin, un autre film de Romero tourné quelques années plus tard. Et d'ailleurs, pour petite info, cet acteur est mort à 106 ans. Donc on découvre un vieil homme dans une pièce blanche, immaculée, couvert de blessures, dans des habits salis, qui pleure sur une chaise. Et un autre homme rentre par une porte, son double d'ailleurs, enjoué et souriant, lui demandant ce qui lui est arrivé. Alors optimiste, il décide de sortir et de profiter de sa belle journée dans un parc d'attractions. Mais le cauchemar ne fait que commencer, rien ne va se passer comme prévu dans ce qui ressemble à une ébauche de zombies réalisée 6 ans plus tard. En effet, Romero filme les vieillards comme des morts vivants, il les utilise comme allégorie politique, critiquant les institutions en place et surtout une société américaine inégalitaire et déshumanisée qui méprise les plus faibles au profit de la célébration du consumérisme le plus horripilant. Alors la fête foraine et le décor effrayant et glacial, comme l'était le centre commercial dans Zombie. Alors, la réussite implacable du film tient à sa forme épurée et expérimentale, dans la lignée d'ailleurs de The Season of the Witch, mais en poussant les audaces encore plus loin, proche du cinéma d'avant-garde. Le montage syncopé, les images constamment déformées et la musique étrange entre folk bouseux et effets sonores électroniques dissonants transforment une petite production anodine en un trip cauchemardesque hallucinant qui se clôt par une des fins les plus traumatisantes que j'ai pu voir. Voilà, Amusement Park n'est pas seulement une curiosité oubliée, mais un authentique grand film permettant surtout de réviser la place de Romero au sein du cinéma américain, peut-être l'un des regards les plus lucides et acerbes sur ses contemporains et le système américain et capitaliste, en fait. Voilà, moi je dirais que c'est vraiment un très très grand film politique.
Mais qu'en ont pensé les commanditaires, en fait ?
Les commanditaires, ils sont peut-être tous morts aujourd'hui. Hein.
Oui, certes, mais...
Mais à l'époque, ils étaient effrayés. Ils avaient trouvé ça épouvantable. C'est-à-dire que ça, ils ont fait une commande d'un film religieux comme ça, où on s'attend à un pur film institutionnel, hein, qui reste quand même... qui n'est pas du cinéma, même, à la base. Hein. Et donc, quand ils ont vu ça, ils ont dit stop. Ils ont gardé
on
le film.
On ne le diffusera pas.
Ils l'ont caché. Ils ont interdit toute diffusion. Voilà.
Alors moi, si je peux, dans la même lignée, conseiller un film, je vous conseille le très oublié, mais absolument génial, Reefer Madness de 2005, d'Andy Fickman. C'est un film qui reprend un film de 1936 du même nom, qui était un film à la base sur qui prévenait les gens des dangers de la marijuana. Dès qu'on tire sur un joint, on transforme son enfant en pute ou en délinquant.
Mais c'est vrai, non.
et du coup, le film de Fickman, c'est s'amuser, en forme de comédie musicale, à reprendre texto le même scénario, mais en exagérant, avec les acteurs, hein, les situations, ce qui fait un film absolument hilarant et beaucoup trop peu connu encore à ce jour.
Mais le film de 36, c'est marrant aussi, hein, parce que c'est quand même assez amusant de voir un film de 36 qui alerte sur les dangers de la marijuana.
Donc nous parlions de Amusement Park, de George Romero, en salle, comme tous les films dont nous avons parlé dans cette émission, depuis le 2 juin.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Mais pour quelle raison ?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre.
Comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
La semaine prochaine, les interviews reviennent, et notamment celle de Fernando Trueba pour L'oubli que nous serons. Et toi Manu, tu vas nous parler du film avec Frances McDormand.
Nomadland, donc, de Chloé Zhao.
À la semaine prochaine.